va vous présenter donc Nicolas Cerzar. Il est ethnologue, maître des conférences MNHN au laboratoire d'anthropologie et ethnobiologie. C'est une UMR, c'est une unité mixte de recherche, c'est ça? Ah oui, j'ai appris. Éco-anthropologie et ethnologie chez CNRS, Musée national d'histoire naturelle. Donc, il est anthropologue, ethnobiologiste, enseignant-chercheur au Musée national d'histoire naturelle. Il étudie les relations et les interrelations entre les insectes et les hommes, ou ethno-entomologie, dans différents contextes culturels, Asie, des Sud-Ouest, Amazonie, etc. Donc, et c'est ce qu'il va dire, petite conférence, ça parlait, bon, ça s'appelle « Les insectes dans la peau, perspective comparée, peau, perspective comparée entre la France et l'Amazonie ». Ben voilà, Nicolas, je te donne les mots.
Quelle présentation, merci. Donc MNHN pour Muséum National d'Histoire Naturelle, je travaille au Musée de l'Homme, qui est un des sites du muséum. Alors, je suis un petit peu embêté parce que c'est une compilation des deux articles que je me rends compte que pas mal ont lu, mais ça vous fera un peu de révision ou d'explication. Donc moi je suis donc ethnologue et je vais vous donner deux exemples ethnographiques à partir des insectes pour parler justement de l'enchevêtrement des mondes humains et non humains. En commençant par un exemple français qui montre une séparation, on va dire, entre culture des hommes et nature des insectes, et un autre exemple amazonien, enfin un autre exemple dans le bassin, une comparaison dans le bassin amazonien, qui s'inscrit dans un autre mode d'identification dont on a déjà parlé, l'animisme, où hommes et insectes partagent une même essence, même s'ils ne se ressemblent pas. Ce dernier exemple étant issu d'une recherche en cours chez les Wayana, et on verra par ces deux exemples donc, que les divisions ne sont pas toujours claires et tendent vers un monde donc cosmomorphe, si j'ai bien compris, donc pour reprendre l'intitulé du cycle. Alors je vais commencer par les bestioles qu'on voit à l'écran, qui s'appellent des boudragues. Donc en Occident et en France en particulier, les insectes ne sont pas toujours considérés comme des sujets neutres ou comme des supports symboliques, comme on va le voir en Amazonie, mais plutôt des organismes avec lesquels l'homme rentre, alors pas tout le temps, mais parfois, en concurrence. Notamment, on a une catégorie, les catégories d'insectes utiles et d'insectes nuisibles qu'on a longtemps retrouvées dans les manuels scolaires, mais qui font encore largement nos représentations des insectes, illustrent donc une conception particulièrement anthropocentrique de ces relations. Alors cette conception, insectes, animaux utiles, animaux nuisibles, on la retrouve, elle se fonde sur un sentiment de crainte, donc à l'égard d'une nature sauvage, et elle rend compte d'une volonté de contrôle et de domination de l'homme sur son environnement. Donc en France, cette catégorie de nuisible, on la trouve à son origine, dès le Moyen-Âge, dans le droit de la chasse, et elle connaîtra son apogée après la Révolution française. En gros, dans le discours d'économie rurale, les vers, mais les insectes en général, menacent les récoltes, et il faut s'en débarrasser. En France, pas partout bien sûr, mais et pas auprès de tout le monde, ces représentations, ces catégories posent les limites. Le territoire des hommes ne peut pas se confondre avec celui des bêtes, entre guillemets. Avec mon collègue donc entomologiste, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis donc ethnologue, même si je m'intéresse aux insectes. Mon collègue Romain Garouste, nous sommes intéressés à des insectes considérés comme des ravageurs de culture, qu'on appelle les boudragues. Donc vous avez un gros spécimen à l'écran. Les boudragues, c'est le nom local. Et ces insectes sont de grosses sauterelles, aptères. Aptères, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, ça veut dire sans ailes. Donc incapables de voler, mais par contre, elles marchent. Qui, de manière épisodique, pullulent dans plusieurs communes du massif des Maures, dans la région du Var. Et qui vont causer d'importants dégâts aux cultures, les vignes principalement, et les jardins. Ces pullulations sont spectaculaires. Elles impressionnent les habitants de la région et les visiteurs, notamment pendant la période estivale. Et dans ce travail, nous nous sommes intéressés, enfin surtout moi, à la manière dont les connaissances et les perceptions des habitants changent et évoluent au contact des insectes, lors des pullulations, mais aussi dans le temps long, au cours de leurs rencontres, enfin au cours des rencontres de ces habitants, de ces rencontres régulières avec les insectes. Une des originalités de ces insectes, enfin du moins leur comportement, enfin c'est que leur comportement est assez peu connu de la science. Mais pas forcément des habitants comme on l'a montré. Donc comme anthropologue et ethnobiologiste, je me suis intéressé aux connaissances pratiques, enfin aux connaissances, aux pratiques et aux savoir-faire élaborés par les habitants de la région pour comprendre l'arrivée de ces sauterelles ou leur absence, parce que c'est épisodique, pour les prévenir et s'en protéger. Alors plus largement, on a montré que la présence des boudragues, voire leur existence, était inséparable de celle de l'homme et de ses activités. Alors, assez rapidement, les représentations des sauterelles sont souvent négatives, les personnes les rencontrant, les désignant comme des bêtes ou des bestioles. Mais la plupart des habitants des hameaux de la région identifient clairement les deux types de sauterelles et connaissent leur comportement pour les avoir observés lors des pullulations. Alors, ils ignorent cependant à quel moment celles-ci apparaissent et pourquoi. Et ils notent que les proliférations correspondent chaque année aux mêmes périodes. Enfin, ils nous disaient qu'il y a des saisons, comme il peut y avoir des saisons de fruits ou autre chose, mais aussi qu'elles sont irrégulières d'une année sur l'autre. Et l'apparition de la boudrague leur semble cyclique, mais imprévisible. Les insectes peuvent apparaître pendant plusieurs années consécutives, puis disparaître les suivantes, avant de réapparaître à nouveau. Mais on ne sait jamais vraiment quand. Et de même, si les habitants les rencontrent souvent aux mêmes endroits, ils reconnaissent ignorer d'où elles viennent précisément. Et les habitants vont désigner, de manière unanime, cependant, les collines comme les lieux d'émergence. Alors la vue ou le contact avec l'insecte peut aussi susciter une certaine incertitude relationnelle avec l'animal, de la gêne ou du dégoût. Et outre les dégâts dans les vignes et dans les jardins, la présence massive des sauterelles lors des proliférations, comme on peut voir à l'écran, sature les sens et impressionne durablement les habitants. Les années de pullulation, les habitants les observent par centaines sur chaque arbuste et par milliers autour d'eux. Les sauterelles vont recouvrir alors la végétation qu'elles dévorent inlassablement jusqu'à la laisser nue. Ceux qui s'en approchent disent même les entendre manger. Alors, donc, cette omniprésence des insectes va affecter, pendant les pullulations, va affecter durablement les personnes qui les vivent. Des personnes vous diront ce qui est effrayant, finalement, c'est le nombre. Et les sentiments de peur, d'angoisse et de dégoût dominent alors et vont trouver leur origine dans la supposition d'anecdotes personnelles et d'expériences plus ou moins directes. Moi, j'avais comme par exemple une dame qui observait les sauterelles sur la route et qui disait que les voitures glissaient tellement il y en avait écrasées. Ou celle, comme la photo suivante, où on voit des sauterelles effectivement dévorer leur congénère écrasé. Voilà. Il faut savoir que c'est comme des gros animaux. Ça fait au moins... ça peut aller jusqu'à 10-15 cm. Et voilà, donc c'est assez spectaculaire. Enfin, de bout en bout, en fait, pour les femelles. Alors, plus largement, les sauterelles inquiètent les habitants par leur voracité, leur lente progression. et par l'impossibilité de les contenir. Souvent en présence des insectes, les sensations s'amalgament. De nombreux habitants ou personnes de passage ressentent de la crainte ou de la répulsion devant l'insecte, seul ou en nombre. Une dame me disait par exemple que moi, quand je roule dessus, je lève les pieds des pédales. Bon, c'est pour dire quand même que le contact n'était pas direct. Et les dégâts occasionnés par les boudragues modifient l'intérêt qu'on pourrait leur porter et les font rapidement passer du statut de curiosité naturelle à celui de nuisance ou d'agent. Donc l'irruption d'un grand nombre, là vous avez des commentaires sur Facebook sur les boudragues qui sont assez rigolos, j'ai trouvé. Et l'irruption d'un grand nombre d'individus, d'insectes, j'entends, et les dégâts que ce surnombre occasionne incitent les habitants qui sont confrontés à s'interroger, et c'est ça qui m'a intéressé, sur les raisons de leur présence et à la meilleure façon de les gérer, c'est-à-dire principalement de s'en débarrasser. La présence des insectes renvoie à un phénomène naturel qui échappe à tout contrôle, et des incertitudes liées à la nature de l'insecte vont découler des traitements inappropriés ou disproportionnés, comme on peut lire à l'écran. Pour les chasser ou les contenir, au nom de l'intérêt public ou privé, les agriculteurs ont recours à des moyens divers et variés, des fossés pour les détourner, des dindons pour les dévorer, et depuis les années 50, différents insecticides qui les tuent. Dernière photo, effectivement, ils passent avec des pulvérisateurs sur les vignes pour se débarrasser de quelques bestioles. Maintenant, je voulais vous parler, et je ferai le lien avec tout ça à la fin, de l'Amazonie. Donc, je vous embarque en Amazonie, plus précisément chez les Wayana de Guyane. Alors, j'ai constaté à travers mes lectures qu'on a toute une littérature ethnographique anthropologique sur les basses terres amazoniennes qui relève que plusieurs sociétés, dont celles qui apparaissent à l'écran, du bassin amazonien, utilisent des insectes, en particulier des fourmis et des guêpes, au cours de cérémonies collectives de type initiatique, mais aussi de manière un peu plus individuelle, principalement pour se renforcer, entre guillemets, avant un départ en forêt. C'est un exemple. Donc on a des cérémonies d'initiation qui ont été très tôt documentées, qu'on appelle les épreuves d'insectes, notamment dans la région des Guyanes, et qui ont été rapidement associées dans l'imaginaire occidental, au folklore amazonien. Alors c'est la faute aux explorateurs de la fin du XIXe siècle, européens principalement, qui insistent souvent avec force détail, alors faute peut-être de bien les comprendre, sur ces pratiques, souvent collectives et spectaculaires, donc qui mettent en scène des individus d'âge et de sexe différents, recevant volontairement les piqûres de fourmis et de guêpes. Je vous rassure, les insectes sont la plupart du temps ajustés à l'individu et aux effets recherchés.